Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition Géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Des élections se tiennent le 8 novembre prochain en Birmanie. Il s'agit de renouveler le Parlement et les assemblées régionales. Ce rendez-vous électoral est présenté comme le deuxième scrutin libre depuis le départ de la junte qui a contrôlé le pays pendant un demi-siècle et il s'annonce comme partiellement entravé, de nombreuses circonscriptions se voyant privées de vote sur décision de la commission électorale au motif de sécurité sur fond de conflit avec des groupes rebelles armés. Le scrutin est présenté comme une étape de plus vers la démocratie, mais 5 ans après la victoire historique de la Ligue nationale de la démocratie d'Aung San Suu Kyi, le temps est toujours à la désillusion sur la transition démocratique et la gestion de la crise des Rohingyas. Les généraux sont toujours omniprésents. La Birmanie, un pays à l'histoire violente qui a arraché son indépendance aux Anglais en 1948 et qui depuis connaît des conflits internes et des coups d'état militaires et a beaucoup de mal à se départir du chemin dictatorial. Un pays très courtisé par la Chine, qui se pose en partenaire incontournable et intéressé. Nos invités, Françoise Nicolas, directeur du Centre Asie de l'Institut français des relations internationales et enseignante à Sciences Po, bonjour.
Bonjour.
Sophie Boisseau-Durocher, chercheure associée au Centre Asie de l'IFRI, bonjour.
Bonjour.
Et Alexandra de Mersan, enseignante chercheure à l'INALCO et rattachée au Centre Asie du Sud-Est du CNRS, bonjour.
Bonjour.
Cette élection donc du 8 novembre, le premier scrutin national depuis 5 ans, il concerne 37 millions d'électeurs birmans. Il y a 10 ans, un gouvernement civil s'installait en Birmanie. Comment la situation politique a-t-elle effectivement évolué depuis? Et comment expliquer cette décision de la commission électorale? Sophie Boisseau-Durocher.
C'est quand même le premier scrutin qui est organisé par un gouvernement civil en Birmanie depuis 1951. Donc c'est quand même un progrès et un effort. Donc les choses se passent de façon organisée. Effectivement, le dernier scrutin a eu lieu en 2015 pour une période de 5 ans. Et donc on renouvelle aujourd'hui les députés qui vont après élire le chef du gouvernement. Alors, cette décision de la commission électorale s'explique d'abord par l'instabilité qui règne toujours en Birmanie. Il y a encore aujourd'hui, dans certains États, des poches de violence qui expliquent qu'il ne sera pas possible d'aller voter et d'assurer les conditions normales d'un scrutin. Et puis, la deuxième raison, c'est le Covid et la progression de la crise sanitaire en Birmanie-Myanmar, qui fait que les risques sont trop importants pour mener à bien ce scrutin. Donc il y a 2 raisons principales. Ce qui pose le plus de problèmes, évidemment, c'est la question des minorités, notamment les Rohingyas, qui n'ont pas accès à ce scrutin, alors qu'ils avaient eu accès au scrutin en 2010 et en 2012. Et ça, évidemment, c'est une régression. Donc comment peut-on parler à la fois de transition démocratique tout en mettant en place des décisions qui actent d'une certaine régression? C'est une question ouverte.
Et surtout, Alexandra de Mersan, comment invoquer la question de la crise sanitaire pour finalement faire du deux poids deux mesures quant aux électeurs qui peuvent se rendre aux urnes? En tout cas, musulmans et hindous sont les grands oubliés de cette élection du 8 novembre.
Alors oui, mais pas uniquement. En fait, si on prend l'État Rakhine ou d'Arakan, essentiellement les musulmans sont effectivement exclus du vote. Ils l'étaient en 2015 également. Ils étaient déjà exclus du vote en 2015. Ce qui est nouveau là, et c'est une décision effectivement assez récente, c'est que un certain nombre de townships, de districts de l'État d'Arakan, sous prétexte de situation sanitaire, mais en fait en raison effectivement, comme l'a dit Sophie Boisseau-Durocher, en raison surtout de conflits et d'une instabilité locale, un certain nombre de districts ont été, enfin les élections sont a priori annulées. Il y a surtout dans cet état-là, ça représente 1,2 million à peu près d'électeurs supplémentaires qui seront exclus du vote. Alors c'est essentiellement une région où se trouvent d'ailleurs les nationalistes bouddhistes arakanais, qui seront donc exclus de ce vote, lesquels avaient eu un certain nombre de sièges aux élections de 2015. Il y avait 10 à 12% environ de partis ethniques qui avaient obtenu des voix et des sièges en 2015. Et là, ces députés risqueront de ne pas pouvoir être élus.
Françoise et Nicolas, un commentaire sur ce qui s'est dit jusqu'à présent.
Le commentaire, c'est que c'est ce qu'on observe sur le plan politique, cette sorte de régression de la démocratie à laquelle faisait allusion Sophie Boisseau-Durocher, s'accompagne aussi d'une régression sur le plan économique. Tout ça crée un contexte qui n'est pas très très favorable. Et ce que je veux dire par là, c'est que en réalité, le Myanmar, Birmanie, vous appelez ça comme vous préférez, ce pays avait eu tendance à s'ouvrir et économiquement à amorcer un processus d'émergence. Et là, on voit qu'il a tendance à se refermer. Et en réalité, on a vu plus d'avancées sur le plan strictement économique, plus de réformes sous le gouvernement précédent que sous le gouvernement d'Aung San Suu Kyi. Donc on a une régression un peu tous azimuts en quelque sorte, et c'est dans ce nouveau contexte que se passent ces élections. On ne peut pas dire que ce contexte soit particulièrement favorable, vu en tout cas d'un point de vue extérieur.
Alors ça nous amènera à parler de la Chine, mais je propose qu'on le fasse un tout petit peu plus loin dans l'émission. Alors est-ce que finalement le gouvernement d'Aung San Suu Kyi, qui, de ce que dit Françoise Nicolas, n'est pas parvenu à réaliser les miracles espérés, peut-être idéalisés aussi par les 56 millions de Birmans. Sophie Boisseau-Durocher, le contexte, en tout cas international, et avec cette histoire de pandémie, n'est effectivement pas favorable aux questions économiques, notamment.
Alors, évidemment, mais à nouveau, les difficultés économiques sont arrivées, en fait, assez tôt, dans les 5 ans de la Ligue nationale pour la démocratie, depuis que la Ligue est au pouvoir, puisque les difficultés sont apparues autour de 2017-2018, c'est-à-dire en conséquence aux événements qui se sont déroulés en août 2017, où on a vu effectivement des heurts très violents entre l'armée et les Rohingyas, et qui ont abouti à l'émigration vers le Bangladesh de 800 000 Rohingyas. Et donc, à partir de ce moment-là, les pays occidentaux, notamment l'Europe, les États-Unis, le Canada, l'Australie, ont décidé de suspendre leur investissement direct étranger. Et donc, il y a eu une chute drastique. On était d'environ 50% quand même des investissements. On était à environ 10 milliards de dollars dans les années 2015, 2016, 2017. Et on est passé en 2018 à 5,6 milliards de dollars. Donc, on voit bien qu'il y a eu là une contraction qui a eu des effets immédiats sur les réformes que voulait mener à bien Aung San Suu Kyi. Et puis, il y a eu également des effets sur le tourisme, qui était un secteur mis en avant par le gouvernement, puisque les touristes occidentaux ont renaclé à venir au Myanmar en raison de la situation des droits de l'homme, de façon générale, dans le pays.
Vous écoutez Géopolitique.
Alors, il est évident que les questions d'instabilité ont des répercussions directes, comme vient de l'expliquer Sophie Boisseau-Durocher, sur l'économie. Et Alexandra de Mersan, la question Rohingya, j'aimerais qu'on y passe un petit moment maintenant peut-être. Ce qui s'est passé en 2017 marque un tournant avec, je crois aujourd'hui, plus de 800 000 Rohingyas réfugiés au Bangladesh et installés dans des camps. Et puis, une proportion malgré tout importante aussi de Rohingyas qui sont restés en Birmanie, avec la Cour internationale de justice qui a lancé des accusations de génocide à l'encontre de la Birmanie. Où en est cette question aujourd'hui, Alexandra de Mersan?
Alors, la situation est un petit peu bloquée. Vous avez rappelé les chiffres. Effectivement, il y a eu deux moments importants en 2016 puis en 2017, avec un exode effectivement très massif d'une majorité de musulmans d'Arakan qui se sont réfugiés essentiellement au Bangladesh, où ils se trouvent à présent dans des camps de réfugiés au Bangladesh. Il y a eu tout un processus qui a été mis en place pour en vue de les rapatrier avec beaucoup de rapports de force finalement entre le gouvernement de la LND et notamment les instances, un certain nombre d'instances internationales. En tout cas, tout était prêt pour les accueillir et jusqu'à présent, un très petit nombre de musulmans sont retournés en Birmanie, en Arakan. Alors, il y a plusieurs raisons qui expliquent finalement le faible retour de ces populations-là. La peur, déjà. la peur de retourner dans le pays sans être sûr des conditions dans lesquelles ils pourront s'établir à nouveau et vivre normalement. Il y a un certain nombre aussi d'acteurs, d'activistes dans les camps de réfugiés qui poussent en fait pour pousser en fait la cause Rohingya et notamment l'accès à la citoyenneté, ont mis des conditions assez haute pour les faire rapatrier, notamment la question de la citoyenneté. Certaines ONG, certains groupes font pression pour que les musulmans puissent rentrer en ayant accès à la citoyenneté en Birmanie. Et de telles conditions, en fait, ont bloqué en quelque sorte le retour parce que ce n'est pas quelque chose d'envisageable. Et puis, il y a surtout un conflit armé qui s'est déclaré fin 2018 entre donc l'Arakan Army, qui est une armée nationaliste arakanaise contre l'armée birmane. Donc un certain nombre de conflits armés se sont déroulés dans le nord de l'Arakan, dont une partie de la région où vivaient les musulmans qui se sont réfugiés. Donc l'armée birmane qui s'était massivement concentrée dans l'Arakan en réaction ou en vue d'éventuelles attaques terroristes ou dites terroristes du groupe Arsa qui avait attaqué des postes de l'armée et de la police en 2016 et 2017 qui avait abouti à des représailles extrêmement virulentes, violentes de l'armée birmane. En fait, l'armée birmane a concentré ces forces-là et un conflit armé important, nouveau, s'est installé dans cette région avec maintenant 200 000 nouveaux déplacés internes, ce qui rend la situation extrêmement compliquée et puis qui du coup décale un petit peu l'agenda aussi des priorités du gouvernement d'Aung San Suu Kyi.
On y reviendra pour faire un petit peu le bilan, simplement pour rappeler que la Birmanie est majoritairement bouddhiste, j'aurais peut-être dû le dire en introduction, et je parle sous votre contrôle, les musulmans c'est 4% de la population et les hindous 0,5% d'une population dont j'ai donné le chiffre tout à l'heure, une cinquantaine 56 millions d'habitants. Ces derniers, donc musulmans et hindous, n'ont pas de papier d'identité. Alors, par rapport aux élections de 2015 que nous évoquions précédemment, on peut souligner que Sophie Boisseau-Desrochers, beaucoup de Rohingyas avaient soutenu le parti de Madame Aung San Suu Kyi, la Ligue nationale de la démocratie, mais cette dernière leur a tourné le dos et ignoré la discrimination systématique dont ils sont victimes. On a du mal à comprendre la marge de manœuvre et l'attitude de Aung San Suu Kyi.
Alors je crois qu'il ne faut pas être aussi incisif. Aung San Suu Kyi, d'une certaine façon, a tenté de faire avancer la cause Rohingya. Et elle a commandé en 2016 un rapport à l'ONU qui a été rédigé et dirigé par une équipe autour de Kofi Annan et pour essayer de trouver des solutions. Donc elle a essayé de débloquer la situation. Il faut d'abord prendre quand même conscience que ces Rohingyas ne sont pas bienvenus dans le pays. C'est-à-dire, comme vous l'avez dit, 90% de la population est bouddhiste. Traditionnellement, on disait d'ailleurs qu'être birman, c'était être bouddhiste. Et donc, cette population musulmane d'Arakan, qui a été en fait immigrée sous la colonisation britannique, puisque l'Empire anglais ne faisait qu'un bloc entre l'Inde, le Bangladesh et... Bangladesh aujourd'hui et la Birmanie. Donc il y avait une libre circulation et les Anglais les ont fait venir pour tenir certains postes économiques. Et donc cette population s'est trouvée en fait en 48, au moment de l'indépendance, s'est trouvée, je dirais, sans soutien puisque les Britanniques étaient partis et que le nouveau gouvernement insistait au contraire sur l'identité birmane. Voilà. Alors il y a eu des négociations pour essayer de trouver des solutions. Et à nouveau, je crois que la raison pour laquelle les Rohingyas ont soutenu Aung San Suu Kyi en 2015, c'était que précisément ils espéraient un déblocage alors qu'ils savaient parfaitement que sous le gouvernement précédent, celui de Tan Shwe, il n'y avait pas de solution pour eux. Donc il y a eu, si vous voulez, cet effort qui a été fait de façon très discrète parce que Aung San Suu Kyi sait également que la population ne soutiendra pas une normalisation de la situation des Rohingyas. Donc il va falloir de toute façon qu'il y ait un effort d'explication pour convaincre les Birmans, je dirais, de la légitimité des demandes des Rohingyas et notamment, comme le rappelait Alexandra, de la citoyenneté. C'est-à-dire que ce sont des populations qui sont là parfois depuis 5-6 générations et qui n'ont toujours pas de papier, pour certains. Voilà. Donc, on en était là au moment des attaques de 2016-2017, donc par l'ARSA. Voilà. Et effectivement, après, Aung San Suu Kyi s'est trouvée prise entre l'armée hein, qui avait perpétré ces violences et qui dispose d'un vrai pouvoir, on y reviendra, sur l'échiquier politique, et les condamnations internationales qui ont immédiatement suivi et qui ont bloqué, si vous voulez, toute marche de manœuvre. Donc voilà, on en est là aujourd'hui. Ce n'est pas une priorité, je crois qu'il faut quand même le dire. Madame Aung San Suu Kyi peut comprendre les demandes des Rohingyas, mais elle peut aussi ne pas y adhérer. C'est-à-dire qu'elle est fondamentalement, elle se sent fondamentalement birmane. Donc elle peut rationnellement comprendre qu'il y a un besoin de normaliser la situation, mais elle est également soumise, si vous voulez, à une pression identitaire à laquelle elle s'associe.
Vous écoutez RFI. Géopolitique.
Alors, les Rohingyas ne sont pas une priorité en Birmanie, on l'a compris. Et la Birmanie, bien sûr, il y a eu des sanctions, mais tout de même, ce qu'on peut constater aussi, c'est que la communauté internationale s'est pas forcément mobilisée au degré qu'elle aurait pu. Donc, la Birmanie n'est pas non plus une priorité sur l'échiquier mondial. Quelques mots, peut-être, Alexandra de Mersan, sur l'armée. Finalement, les généraux laissent très peu de champ libre. Ils sont officiellement en retrait, mais ils conservent une emprise considérable et bien au-delà des affaires purement sécuritaires sur la gestion du quotidien en Birmanie.
Alors, je dirais pas qu'ils sont en retrait. Ils sont complètement présents. On est tellement présents que, effectivement, la majorité de la population en Birmanie, quelle que soit l'ethnicité, quelle que soit la religion aujourd'hui, est derrière, de façon générale, globale. Après, il faudrait voir dans les détails, mais de façon globale, encore aujourd'hui, la population est massivement derrière Aung San Suu Kyi, contre les militaires, qui, de par la Constitution, en fait, ont une place prépondérante. Alors, effectivement, ils ont 25% des sièges dans les parlements régionaux, locaux. L'armée a encore le ministère des Armées, l'Intérieur. La gestion des zones frontalières où se trouvent tous ces conflits régionaux. Et alors, les choses ont quand même avancé. La position de la NLD dès le début, ça a été d'arriver à discuter avec l'armée autour de la table, de composer avec. De toute façon, elle n'a pas le choix. Elle n'avait pas le choix que de composer avec l'armée. Et c'est un peu la politique générale qui a été menée pour notamment, d'une part... Alors, on disait tout à l'heure que la question des Rohingyas n'est pas la priorité du gouvernement. Non, c'est vrai, elle ne l'est pas. Il y a une énorme pression internationale en 2017-2018 qui fait que ça l'a été à un moment, mais il y a bien d'autres difficultés auxquelles est confronté ce gouvernement, notamment celui du fédéralisme, de l'unité nationale, parce qu'en fait, c'est un pays dit multiethnique, avec 135 populations reconnues dans le pays, et toutes ces populations aspirent à un devenir meilleur, et ça passe par un changement, notamment tout le monde aspire à un changement de constitution qui était un point important du programme de la LND en 2015 et qui a été de nouveau mis sur le devant de la scène en 2019 par le gouvernement pour essayer de changer la constitution pour vraiment mettre en place un État fédéral. Le gouvernement s'est trouvé confronté à une vive opposition à l'armée. Donc, l'armée, elle est là, en fait. Et ce qu'on a du mal peut-être parfois d'ici à comprendre, c'est à quel point on est face à une double force, en fait, dans le pays. Ce n'est pas Aung San Suu Kyi qui dirige l'armée en Birmanie. Il faut le dire et le redire. Et ça, on ne le comprend pas. Je dirais qu'il y a deux têtes en Birmanie. Il y a le général des armées, Min Aung Hlaing, et Aung San Suu Kyi. Le gouvernement d'Aung San Suu Kyi peut agir dans un cadre constitutionnellement défini par l'armée en 2008. C'est pour ça que tout le monde aspire à changer la constitution et que c'est extrêmement compliqué.
Alors très rapidement, les Américains demandent...
Un point important à dire sur ce sujet. En 2016, déjà, elle a bien joué, puisqu'en fait, constitutionnellement, elle ne peut pas assumer le pouvoir, puisqu'elle a épousé un étranger. Donc ça, c'était une autre limite que l'armée avait imposée. Et donc, elle s'est créée un poste, celui de conseillère spéciale, pour précisément pouvoir prendre les affaires en main. Ça a été, je dirais, une façon déjà de montrer à l'armée qu'elle comptait, elle, diriger le pays. Ça, c'est le premier point. Et puis, quand elle a avancé des amendements en mars 2020, ils ont été systématiquement refusés par l'armée. Donc ça, c'est un vrai problème et c'est le problème, enfin, c'est la question qui devrait être traitée dans la prochaine législature.
On vous retrouve, Sophie Boisseau-Durocher, Alexandra de Mersan et Françoise Nicolas. Après le journal, à tout de suite.
Priorité. Géopolitique, Marie-France Chatin.
Regard sur la Birmanie où des élections se tiennent le 8 novembre prochain. Il s'agit de renouveler le Parlement et les assemblées régionales. Nous retrouvons nos invités. Alexandra Demerson, enseignante-chercheure à l'INALCO, rattachée au Centre Asie du Sud-Est du CNRS. Françoise Nicolas, directeur du Centre Asie de l'Institut français des relations internationales et enseignante à Sciences Po. Et Sophie Boisseau-Durocher, chercheure associée au Centre Asie de l'IFRI. En quelques mots, pour terminer sur cette question du scrutin à proprement parler, quelle surprise à anticiper de ce scrutin du 8 novembre, nouveau succès de la LND, mais peut-être léger retrait par rapport à 2015 et progression notable de la myriade de partis ethniques. Alexandra Demerson.
Alors, c'est sans doute là où, effectivement, on s'attend à quelques surprises, ou en tout cas, on attend de voir l'issue du scrutin. S'il ne fait pas de doute que la Ligue nationale pour la démocratie remportera le scrutin, effectivement, du côté des populations non birmanes, de ce qu'on appelle les partis dits ethniques, on ne sait pas quelle sera la proportion de sièges et dans quelle proportion ils vont voter soit pour des partis donc dits ethniques, soit plutôt pour le parti d'Aung San Suu Kyi. Il y a une nouvelle génération des jeunes formés, éduqués à l'étranger, qui ont travaillé dans des think tanks ou dans des qui parlent anglais, enfin il y a toute une nouvelle génération qui arrive là depuis 4-5 ans, des activistes qui viennent de la société civile, d'organisations de la société civile qui ont envie de changer les choses, qui n'avaient pas encore leur place en 2015 parce que l'enjeu était énorme et les partis ont laissé les seniors en quelque sorte, enfin qui se sont imposés à ce moment-là. Là il y a des nouveaux jeunes qui, quand on dit parti ethnique, justement qui dépassent le fait de représenter seulement leur ethnicité, leur groupe local, qui ont des envies de vivre ensemble dans un État fédéral, qui vraiment ont réfléchi, qui se sont formés à la question du fédéralisme. Alors nous, on connaît pas très bien ça en France. Ils sont allés se former, ils ont regardé du côté de l'Inde, du côté du Canada, du côté de la Suisse, de l'Allemagne, enfin pour penser à leur devenir. Et du coup, ils ont dépassé les côtés. En fait, les partis ethniques étaient un peu vus comme des partis nationalistes, un parti ethnique, une ethnie. Là, vraiment, ils veulent penser à des intérêts communs, au-delà même juste de leur région d'ailleurs d'origine, mais vraiment penser à comment vivre ensemble dans un État fédéral. Et c'est une énorme question qui est en train de se construire et c'est le point le plus important et l'issue des élections. Concernera ce point-là.
Alors, je le disais en introduction, Sophie Boisseau-Durocher, de nombreuses circonscriptions se voient privées de vote sur décision de la commission électorale au motif de sécurité. Les Américains sont intervenus pour demander la tenue d'élections, je les cite, en l'occurrence, c'était David Hale qui est le numéro 3 de la diplomatie américaine, donc des élections crédibles, transparentes et inclusives, ça va être le cas le 8 novembre
Non, pour les raisons précisément que vous venez d'énumérer. Donc, voilà, maintenant, à nouveau, je crois qu'il faut quand même pas trop demander, si vous voulez, il faut pas regarder la Birmanie avec nos critères occidentaux. Il y a un progrès qui est en marche, c'est lent, c'est un pays qui est excessivement complexe, comme l'a rappelé Alexandra. Je crois qu'il y a des choses positives, il y a notamment cette coalition des partis ethniques qui va permettre probablement de redistribuer un peu les cartes politiques, c'est-à-dire de sortir du face-à-face NLD armé. Et c'est un point positif. Donc voilà, alors il y a des ratés, il y aura effectivement des déçus, il y aura des points contestables. Le fait que certaines ethnies ne puissent pas voter, c'est évidemment condamnable, c'est sûr. Mais voyons aussi le progrès. Et les Américains sont quand même toujours très forts, et les Européens d'ailleurs aussi, pour donner des leçons sans obligatoirement soutenir les progrès quand ils sont en route.
Vous écoutez RFI. Géopolitique.
Alors, on va aborder les questions économiques. On l'a dit dans la première partie de l'émission, Françoise Nicolas, vous l'avez dit, la Birmanie souffre sur le plan économique du manque de stabilité ou de son instabilité, avec évidemment des répercussions. Quel état des lieux peut-on faire aujourd'hui avec en plus la pandémie qui est passée par là? Le régime birman est très largement soutenu par la Chine, mais pas seulement.
Oui, alors si on fait un petit arrêt sur image, aujourd'hui, comment se porte l'économie birmane? Comme je disais tout à l'heure, elle se porte sans doute un peu moins bien qu'il y a quelques années. Il y a eu un vrai mouvement d'ouverture, une vraie réforme mise en place en 2011, et puis un essoufflement de cette réforme. Et c'est là que, justement, on a eu une grosse déception du côté occidental. On a certainement placé beaucoup trop d'attentes et beaucoup trop d'espoir dans la personne d'Aung San Suu Kyi, c'est très clair. Mais ce qui est incontestable, c'est qu'on a eu un ralentissement de l'élan réformateur. Et du coup, on a eu effectivement cet effondrement des investissements directs étrangers auxquels faisait allusion Sophie tout à l'heure. Mais je pense que là, les deux choses en réalité se nourrissent et se renforcent l'une l'autre. C'est parce qu'il y a des problèmes d'instabilité politique que Aung San Suu Kyi n'a pas mis la priorité sur les questions économiques. Et du coup, c'est parce que l'économie va pas bien que ça alimente aussi l'instabilité politique. Et tout ça se renforce. Donc aujourd'hui, la situation n'est pas particulièrement brillante sur le plan économique. Cela étant, là aussi, je serai un peu de l'avis de Sophie, faut pas non plus être trop négatif et trop critique. Ce que l'on observe, c'est quand même encore un pays qui a une croissance assez forte. La croissance, elle se situe autour de 6%, on va dire. Alors évidemment, c'est
ça,
moins...
Ça, c'était avant pandémie, on est d'accord.
Oui, ça, c'était avant Nicolas. Pandémie, c'est en fait. Mais bon, c'est encore pas mal, 6%. Évidemment, c'est moins bien que là aussi, pendant la précédente législature, où là, on était plutôt proche de 8%. Donc, on est toujours dans cette situation où c'est peut-être pas si mal, mais c'est moins bien que ça a été. C'est un peu la situation, ce qu'on peut retenir de la situation économique. Alors après, si on regarde quels sont les soutiens économiques de la Birmanie, effectivement, il y a la Chine. Tout le monde n'a que la Chine à la bouche. Mais en réalité, je pense qu'il faut regarder aussi un peu quels sont les autres partenaires. Il y a d'autres gros partenaires qui sont absolument essentiels pour le développement de l'économie birmane, qui sont sans doute plus discrets, qui n'apparaissent pas non plus complètement ou de manière très très évidente dans les chiffres, et qui jouent un rôle tout à fait conséquent. Et j'ai en priorité à l'esprit le Japon. Le Japon joue un rôle tout à fait essentiel. Et le Japon, c'est un partenaire de très longue date. Certes, le Japon a occupé la Birmanie pendant la guerre et il n'a pas laissé que de très bons souvenirs. Mais malgré tout, ce qui reste dans l'esprit des Birmans, c'est que le Japon a été aussi le contributeur de l'accession à l'indépendance. Il a aidé à ce phénomène-là. Et donc, il y a quand même une image assez positive du Japon. Et aujourd'hui, le Japon est très actif. Alors, je disais tout à l'heure, ça ne se voit pas nécessairement dans les chiffres, parce qu'il y a pas mal d'investissements japonais, investissements directs japonais en Birmanie, qui passent, par exemple, par Singapour. Donc lorsqu'on regarde les chiffres, on a l'impression que Singapour est un investisseur très très actif. Bon, c'est certainement pas complètement vrai, les Japonais sont derrière ces chiffres-là. Et j'en veux pour preuve la grosse zone économique spéciale qui existe à proximité de Yangon, Tilawa. Et c'est une zone économique spéciale qui fonctionne très bien et qui a été mise en place à l'aide d'un partenariat entre la Birmanie et le Japon. C'est une zone qui a été financée en particulier par l'agence de développement japonaise, la JICA. Donc ça par exemple, là c'est quelque chose d'extrêmement tangible. Les Japonais sont là et ils contribuent au développement de l'activité industrielle en Birmanie. Donc ça, je pense qu'on peut vraiment dire que la présence japonaise est très positive sur le développement économique de la Birmanie. Alors, ne suis pas sûr qu'on puisse en dire autant de la présence économique chinoise.
Sur le plan de la positivité, c'est
oui,
cela
de
que
la
vous
positivité. La, alors, les secteurs dans lesquels les Chinois sont présents ne sont pas exactement les mêmes. Et je ne suis pas sûr que les retombées positives soient aussi importantes.
Alors, la Birmanie est souvent décrite comme un pays vassal de la Chine.
La Birmanie, elle a un emplacement géostratégique absolument crucial.
On va rappeler les voisins de la Birmanie, le Bangladesh, l'Inde, la Chine, le Laos et la Thaïlande.
Mais pour la Chine, la Birmanie, c'est un endroit absolument rêvé, puisque c'est l'ouverture sur le golfe du Bengale, et c'est pour ça que la Chine a construit à la fois un oléoduc et un gazoduc qui traverse la Birmanie jusque au port de Chokpyo. Ça, c'est pas du tout un hasard, c'est parce que ça intéresse au premier chef la Chine. Donc là, pour revenir à ce que je disais auparavant, les raisons de la présence et de l'influence chinoise ou japonaise sont assez fondamentalement différentes. Et du point de vue de la Birmanie, il me semble quand même, si je caricature un petit peu, que la présence japonaise a quand même d'autres effets, et des effets plus bénéfiques que la présence chinoise.
Un commentaire Sophie Boisseau-Durocher sur ce qui vient d'être dit sur la Chine, le Japon.
Il y a une rivalité qui est très ancienne d'ailleurs, entre le Japon et la Chine au Myanmar, puisque quand il y a eu les événements de 1988, les pays occidentaux se sont tout de suite retirés, mais le Japon est resté. Donc il y avait déjà des intentions à long terme qui étaient là. Ce qui est sûr, c'est que la Chine a aujourd'hui, je dirais, une diplomatie très expansionniste, c'est-à-dire qu'elle veut qu'on la voie, elle met en avant les rencontres nombreuses entre les dirigeants chinois et les dirigeants locaux. Wang Yi, le ministre des Affaires étrangères chinois, était récemment en Asie du Sud-Est. Xi Jinping lui-même est venu à Yangon en janvier dernier, et alors il y a eu des pages entières sur cette visite de Xi Jinping, qui est arrivé évidemment les mains pleines. Donc il y a, si vous voulez, une mise en valeur qui fait qu'on a le sentiment que l'ombre chinoise est colossale. Ce qui est sûr, c'est que cette ombre chinoise n'est pas aussi positive qu'on le dit. Alexandra, tout à l'heure, parlait de l'armée d'Arakan, hein, qui est une armée bouddhiste, qui est en partie soutenue par la Chine, qui a besoin aussi et certaines armées locales, d'autres armées locales, sont également soutenues par la Chine, en termes logistiques notamment, mais également en termes de formation. Donc, ce qui fait que la Chine est directement impliquée dans le processus de réconciliation nationale. Vous voyez, donc, il y a des arrière-pensées politiques chinoises que le Japon ne nourrit pas.
Alexandra de Mersan.
Oui, si je peux ajouter quelque chose, effectivement, c'est intéressant de comparer la Chine et le Japon, et notamment du point de vue des Birmans. La politique de la Chine est quand même, de manière générale, la politique économique, vue comme très prédatrice. C'est-à-dire que les Chinois visent à exploiter toutes les ressources naturelles du pays, ce qu'ils font partout ailleurs. C'est pas spécifique à la Birmanie, on retrouve ça en Asie du Sud-Est,
en Afrique,
le bois, les ressources forestières, les ressources minières, le gaz. Et en plus, alors, il se trouve que ces ressources naturelles sont en priorité dans les zones frontalières, en majorité non birmane, ce qui, effectivement, rend la situation très compliquée et dans les luttes de ces divers, enfin, des divers mouvements armés, enfin, contre le gouvernement central. Donc, les Chinois sont pas bien vus en Birmanie. On le dit pas parce que c'est l'ami, c'est le partenaire économique privilégié. Donc, mais il y a un ressentiment qui est très fort. Par contre, ce qui est quand même assez nouveau, c'est que ici et là, les mouvements se sont fait entendre par la société civile, notamment contre des projets de barrages hydroélectriques chinois pour alimenter en électricité le Yunnan, des choses comme ça. Ce qui est intéressant quand on compare avec les Japonais, c'est que les Japonais, à partir de la crise des Rohingyas, en fait, la Birmanie a été complètement isolée, pas par la communauté internationale, mais par l'Occident, disons, les pays européens et anglo-saxons. Les Japonais ont une autre politique, c'est-à-dire que, par exemple, quand le Premier ministre japonais vient en Birmanie, il va systématiquement rendre une visite auprès du chef des armées et auprès du gouvernement de Aung San Suu Kyi. Donc ils ont une politique qui n'est pas effectivement de
confrontation,
confrontation comme on peut l'avoir en Occident d'une part. Et puis surtout les Japonais, peut-être justement du fait, en raison de cette histoire de la Seconde Guerre mondiale où ils ont laissé des traces vraiment difficiles dans le pays malgré tout. Alors ont des intérêts économiques, évidemment, ce sont pas des enfants de cœur, mais ont beaucoup aidé la Birmanie dans des programmes de développement. Ils forment les gens dans le secteur agricole. Il s'agit pas juste d'exploiter les ressources, de faire de l'argent et de partir. C'est pas du tout la politique du Japon. Il y a vraiment une politique beaucoup plus souple, hein, des Japonais qui vise, en tout cas, à former les Birmans qui ont un énorme besoin de formation dans tous les secteurs, dans l'industrie, le système bancaire, le système...
Oui, d'ailleurs, à propos du système bancaire, ce qui est très intéressant, c'est que les premières licences qui ont été accordées à des banques étrangères l'ont été à des banques japonaises. Ça n'est absolument pas un hasard. Donc là, il y a vraiment, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous, un lien très, 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 très fort. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dès que le Myanmar a commencé à s'ouvrir, lorsque le gouvernement civil est arrivé en place, les Japonais, tout de suite, ont effacé la dette. Donc là, il y a des gestes aussi qui sont restés, au-delà du symbolique, des gestes très forts qui sont restés dans l'esprit des Birmans. Et je pense que du coup, le souvenir est très positif, effectivement.
Sophie Boisseau de Rocher.
Un point qui pénalise énormément l'économie birmane, c'est l'absence de compétences. Et un des secteurs sur lequel les Japonais investissent énormément est précisément l'éducation et la formation. Et ça, c'est vu, évidemment, perçu par les Birmans comme quelque chose d'excessivement positif, parce que ça va leur permettre permettre de rattraper éventuellement leur retard par rapport à leurs voisins thaïlandais, par exemple.
Alors, Françoise Nicolas, vous parliez des partenaires. Vous avez cité le Japon, on a développé sur le Japon. L'Inde ?
L'Inde est aussi un partenaire important, mais qui ne joue pas du tout un rôle comparable à celui du Japon. Et on a plutôt un partenariat qui, je pense, se joue dans le domaine militaire, dans le domaine de la sécurité, et nettement moins dans le domaine économique. Donc là, je laisserai la parole à mes comparses qui sont plus au fait que moi sur ces questions-là. Alors, l'influence économique n'est pas du tout comparable. Il y a un autre acteur important sur le plan économique, qu'on a aussi tendance peut-être à oublier, c'est la Corée. La Corée qui joue un petit peu le petit Japon, c'est toujours un peu la même chose et ils ont toujours un peu le même type d'approche. Mais si vous allez à Yangon, c'est quand même assez patent. La présence coréenne n'est pas du tout marginale.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Alors, quelques mots peut-être, et je les ai cités tout à l'heure, les voisins de la Birmanie, moi j'y reviens, Bangladesh, Inde, Chine, Laos et Thaïlande. Qu'est-ce que l'on peut dire de la place de la Birmanie dans son environnement régional ?
Sophie Boisseau-Desrochers. C'est intéressant parce que la Birmanie a rejoint l'ASEAN en 1997. Et à ce moment-là, il y a eu tout un débat sur l'intérêt de cette adhésion. Mais l'idée générale était d'intégrer l'ensemble des pays d'Asie du Sud-Est dans la grande famille régionale. Ensuite, il y a eu des tensions très fortes provoquées par les Européens qui n'ont pas voulu s'asseoir à la table des négociations avec les généraux birmans et donc ont refusé à plusieurs reprises d'assister aux réunions entre l'Union européenne et l'ASEAN à propos de la Birmanie. Aujourd'hui, les choses se sont quand même apaisées. Les partenaires du Myanmar sont assez actifs sur le plan économique. Françoise a parlé tout à l'heure de Singapour, mais également la Malaisie ou évidemment la Thaïlande. On estime qu'il y a environ 1 à 1,5 million de Birmans qui travaillent en Thaïlande. Et ce chiffre pourrait d'ailleurs être plus important. Donc, il y a là aussi une façon, je dirais, de soutenir l'évolution locale. Et puis aujourd'hui, la question des Rohingyas. Alors qu'ils ont accueilli des populations Rohingyas, la Malaisie et l'Indonésie, qui sont deux pays musulmans majeurs en Asie du Sud-Est, n'ont pas véritablement gêné le gouvernement d'Aung San Suu Kyi. Ils prônent évidemment une solution positive, mais ils le font de façon régionale, c'est-à-dire de façon discrète, derrière le rideau, comme on dit généralement dans la région.
Et alors, relation très conflictuelle avec le Bangladesh, qui précisément accueille la plus grosse partie des Rohingyas qui ont quitté donc la Birmanie très rapidement et en guise de conclusion peut-être Alexandra de Mersan.
La situation avec le Bangladesh, elle n'est pas si conflictuelle que ça en fait. Le Bangladesh pousse pour que les musulmans ne s'installent pas dans les camps. Ils ont une politique qui fait tout pour éviter qu'ils s'installent durablement dans les camps. Mais non, je ne dirais pas qu'il y a d'énormes tensions entre le Bangladesh et la Birmanie. En fait, il y a les frontières.
Il y a une recherche en fait actuellement des négociations qui sont très denses pour trouver une solution. Donc il y a au contraire, je dirais, des liens assez apaisés, mais néanmoins, il y a un véritable problème Rohingya au Bangladesh aujourd'hui, avec près d'un million de réfugiés. Donc, il faut trouver une solution. Ce qui est intéressant dans tout ce qu'on vient de dire, c'est que alors que l'Union européenne étudie encore aujourd'hui l'option des sanctions, alors que les États-Unis ont suspendu le dialogue politique, ce dont on s'aperçoit, c'est que les pays d'Asie restent très actifs au Myanmar, et il faudra faire attention à ce que ce pays, qui est un pays précieux à de multiples égards, ne sorte pas complètement de nos radars.
Merci Sophie Boisseau-Desrochers. Je rappelle que vous êtes chercheure associée au Centre Asie de l'IFRI. Alexandra de Mersan, enseignante chercheure à l'INALCO, rattachée au Centre Asie du Sud-Est du CNRS. Et je signale cette publication qui vient de paraître, Birmanie 2010-2017, un pays en transition. Point d'interrogation,
en direction de Aurore Candier. Et Françoise Nicolas, merci également. Je rappelle que vous êtes directeur du Centre Asie de l'Institut français des relations internationales et enseignante à Sciences Po. Géopolitique était signée Marie-France Chatin, Yael Co et Nathalie Laporte. À samedi prochain.